Vous êtes sur RTL. RTL Midi, le 12h, Pascal Pro, Céline Landreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi, 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h, c'est donc avec vous Céline Landreau, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Réseau Express Régional RER, trois lettres pour 10 nouvelles villes. Au lendemain de l'annonce surprise d'Emmanuel Macron qui veut développer les RER dans les grandes villes régionales au nom de la transition énergétique, on reviendra dans ce RTL Midi sur ces grands chantiers qui se dessinent et qui s'annoncent déjà compliqués. À suivre aussi l'embarras à Échenon, village des Côtes d'Or, où le maire accusé de détention d'images pédopornographiques refuse de démissionner. Le gouvernement qui se prépare aux coupures de courant. La Chine qui assure que sa politique très restrictive contre le Covid sera une réussite alors que des émeutes secouent le pays. On sera d'ailleurs à 12h40 avec notre correspondant à Pékin, lui-même confiné, sans être malade ni même cas contact. Et puis du foot, puisque le mondial continue, sans Neymar, mais avec le Brésil aujourd'hui.
RTL Midi toujours plus proche de vous, dans moins de 10 minutes. RTL Midi, un jour chez vous en France.
Et aujourd'hui, on part pour la Beauce, peut-être le nouvel Eldorado des vignerons. À midi 20, RTL Midi, votre vie plongée dans votre quotidien. Il vous reste 3 jours pour l'acheter si ce n'est pas déjà fait. Les cases des calendriers de l'Avent commenceront à s'ouvrir jeudi, enfin pour les plus patients. Un vrai business qui ne se cantonne plus au chocolat, vous verrez. Juste avant 13h, LVT Midi, des années qu'il n'a pas parlé dans un micro. Michel Houellebecq sort du silence et c'est sur RTL, l'écrivain a rencontré Bernard Lehu pour parler de son nouveau projet, une BD. La question du jour sur notre site RTL.fr à propos du Covid-19. La 9e vague vous inquiète-t-elle?
J'ajoute à ces sujets un que nous pourrons évoquer dans les auditeurs ont la parole. Kylian Mbappé est-il un des dieux du stade? Et on en parlera notamment avec Christian Olivier.
Ce sera juste après 13h. Avant ça, la météo avec vous, Louis Baudin, bonjour.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
C'est plus calme à l'ouest. Hein.
C'est plus calme à l'ouest, effectivement, parce que dans l'est, il y aura une perturbation très active avec des nuages, de la pluie, de la neige en montagne et quelques éclaircies dans l'ouest.
Merci Louis, la météo complète à la fin du journal.
RTL Midi.
C'est un petit village qui ne s'attendait certainement pas à faire les titres de l'actualité. Échenon, 800 habitants environ dans les Côtes d'Or. Et un maire accusé de détention d'images pédopornographiques qui refuse de démissionner, Martin Choc.
Oui, ils sont déjà plus d'une centaine d'habitants d'Échenon à avoir signé une pétition pour réclamer son départ, notamment vendredi soir dernier pendant le conseil municipal. Les habitants que j'ai eus au téléphone ce matin sont encore sous le choc, d'autant plus que Dominique Clotte habite dans son logement de fonction au-dessus de l'école où sont passés des dizaines et des dizaines d'enfants pendant des années. Le maire d'Échenon a été placé en garde à vue le 15 novembre. Dans le cadre de ce grand coup de filet, vous savez, contre une cinquantaine de pédocriminels présumés. Il est accusé d'avoir détenu des photos, des vidéos d'enfants âgés entre 5 et 15 ans, des mineurs ayant des rapports sexuels entre eux ou avec des adultes. Pendant sa garde à vue, il a reconnu une grande partie des faits. Il est finalement relâché et placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès à Dijon le 26 avril prochain. 5 mois, c'est long, beaucoup trop long pour une partie des habitants. Dominique Lotz n'était pas joignable à la mairie d'Échenon ce matin. Il risque 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende.
Martin Choc pour RTL.
Comment préparer les esprits à des coupures d'électricité cet hiver? C'est toute la question ce matin à Matignon.
Elisabeth Borne a réuni les principaux ministres concernés. Alors ce n'est pas de la politique fiction. RTE et Enedis, les gestionnaires du réseau électrique, estiment les risques sérieux dès le mois de janvier. Et sur cette question, visiblement, Olivier Bost, il n'était pas inutile de se concerter et de se préparer un peu.
Ah non, figurez-vous que depuis des décennies, tout le monde parle des plans de délestage. Mais c'est ce que nous a raconté un proche d'Elisabeth Borne. Quand la première ministre est arrivée à Matignon et a ouvert les placards, eh bien, il n'y avait pas de plan. C'est pour ça qu'elle a réuni ce matin quasiment la moitié du gouvernement, pour être sûr qu'en janvier prochain, tout soit prêt. Et c'est un sujet très délicat. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, les relais téléphoniques pour les portables n'ont pas d'alimentation de secours, pas de batterie. Si vous coupez le courant au mauvais endroit, il n'y a plus de téléphone, impossible d'appeler des secours, etc., etc. Au-delà de la pratique, il y a aussi un choc psychologique que redoutent désormais tous les étages du pouvoir, des Français qui s'éclairent à la bougie. Ça va donner l'impression que le pays dégringole, redoute un conseiller haut placé, un fort sentiment de déclassement. En janvier, s'il fait froid, ça risque donc d'être chaud pour le gouvernement, d'autant qu'au même moment arrivera la fin des aides carburant pour tout le monde, plus 15% pour l'électricité, ça aussi c'est pour tout le monde, et puis la retraite à 65 ans.
Bah, ça nous promet un bon début d'année. Merci Olivier Bos, chef du service politique d'RTL. L'Assemblée nationale examinera, elle, à partir de cet après-midi, une proposition de loi anti-squat portée par la majorité. Le texte vise à durcir les sanctions encourues par les squatteurs, les tripler, en fait, pour être très clair. Elle risquerait alors jusqu'à 3 ans de prison, 45 000 euros d'amende. Une proposition de loi vivement dénoncée par la gauche.
RTL, Coupe du Monde 2022.
Le football, et on rappelle que la France est la seule équipe qualifiée pour le moment pour les huitièmes de finale avec 2 victoires. Il se poursuit ce mondial au Qatar avec le Brésil aujourd'hui, mais sans Neymar.
Le joueur du PSG, ça ne vous a pas échappé, touché à la cheville, forfait contre la Suisse. Le match sera à 17h. La Seleção va donc devoir prouver que son statut de favori n'est pas usurpé, Nicolas Georgerot, et cela même sans son maître à jouer.
C'est un examen de passage, oui, c'est certain. La star parisienne est l'objet de toutes les attentions du staff médical, jour et nuit. Le Brésil peut parfois vaciller, on le sait, quand un grain de sable, et il y en a ici, vient gripper la machine. Ce sont aux autres joueurs de se révéler alors qu'il y a ce vide laissé par Neymar. Appuie son coéquipier Casemiro, l'ancien du Real Madrid et aujourd'hui à Manchester United.
C'est l'un des meilleurs joueurs du monde. On a des joueurs de qualité dans notre équipe. Mais bien sûr, si on compare avec Neymar, c'est difficile de vraiment remplacer un tel joueur avec ce talent.
Le Brésil tenu en haleine. Les moindres propos et photos postés par Neymar sur les réseaux sociaux sont interprétés, décryptés pour tenter de savoir si sa cheville va mieux. Hier, il a été aperçu dans les rues de Doha, marchant normalement. Une chaîne américaine pensait détenir des images exclusives. Pas de chance, c'était un sosie du célèbre numéro 10, très convaincant et qui a mis la pagaille et provoqué un bel attroupement dans les rues de Doha.
Nicolas Georgerot, Qatar pour RTL. Et avant les Brésiliens, ce sont les Camerounais et les Serbes qui sont sur le terrain actuellement, enfin qui vont revenir sur le terrain pour être plus précis, puisque c'est actuellement la mi-temps, 2-1 pour la Serbie. À 14h, Corée du Sud, Ghana. À 17h, donc Brésil, Suisse. Et puis ce soir à 20h, le Portugal affrontera l'Uruguay. La météo, on vous retrouve Louis Baudin pour un après-midi très agité à l'est.
À l'est, exactement, avec là une perturbation qui va apporter tout au long de l'après-midi des nuages, de la pluie, de la neige hein, sur les Alpes, notamment à partir de 1300 mètres. Beaucoup d'activités également près de la Méditerranée, avec même parfois de l'orage, notamment autour du golfe de Lyon. Quand même, la tramontane devrait permettre au ciel de se dégager au fil des heures jusqu'à 70 km/h, cette tramontane. Dans les autres régions, donc dans la moitié ouest, on retrouvera quelques éclaircies, mais encore entrecoupées d'averses assez fréquentes, hein, je les vois revenir là par l'Atlantique, le tout avec des vents assez forts, que ce soit près de l'Atlantique ou encore donc près de la Méditerranée, jusqu'à 60-70 km/h. Les températures 8 à 10 degrés dans le nord-est, 10 à 13 degrés dans les autres régions et parfois jusqu'à 15 degrés entre la Côte d'Azur et la Corse.
Merci Louis.
C'est pas
RTL Midi, un jour chez vous.
Il paraît quelque chose ?
Il va faire très froid cette semaine.
Pas encore très froid, mais déjà du froid
l'hiver. RTL Midi, un jour chez vous. Chaque jour, l'info plus près de vous.
Et aujourd'hui, on part pour la Beauce. Bonjour Clément Terra.
Bonjour.
Elle est davantage connue pour ses vastes étendues céréalières. Mais voilà que dans la Beauce, on se met aussi à faire du vin. C'est en tout cas le pari de Rodolphe Couturier, agriculteur à Mérouville, en Eure-et-Loire, que vous avez rencontré.
Et oui, Rodolphe Couturier m'accueille dans son exploitation, vêtu d'un bleu de travail. Autour de nous, d'immenses murs en pierre ferment sa propriété. Une ancienne grange rénovée au milieu de la campagne, des champs. Il y a 4 ans, cet agriculteur a planté ses premières vignes et aujourd'hui, les cuves de son chai sont pleines. Où est-ce qu'on vient de rentrer ?
Alors, on vient de rentrer dans le chai, le cœur du réacteur pour fabriquer le vin. C'est là qu'arrive le raisin juste après la vendange où il est transformé en vin. Il y a 2 grandes cuves, dont une là, qui fait 6000 litres et qui est pleine de vin rouge.
Alors le vin rouge c'est du pinot noir, mais il fait aussi du chardonnay pour le vin blanc. En 2 ans seulement, le volume a été multiplié par 10. De 940 bouteilles en 2020, on est passé à 3600 en 2021 et ce sera près de 9000 cette année. Des chiffres qui vont continuer à grimper parce que Rodolphe Couturier a récemment planté 1,5 hectare de vignes en plus.
Mais pourquoi cet agriculteur s'est lancé dans la production de vin dans un département où il n'y en a plus du tout?
Eh bien d'abord parce que le dérèglement climatique fait qu'en Eure-et-Loire également, les températures d'été sont de plus en plus chaudes et la vigne, elle aime le soleil et la chaleur.
Le climat changeant d'année en année quand même fait que cette production-là, il y a 15 ou 20 ans, elle n'aurait pas forcément été judicieuse. Maintenant, je pense que c'est un choix qui se révélera payant. Pour arriver à avoir un bon vin, il faut des grains qui arrivent à maturité. Et pour qu'ils arrivent à maturité, il faut une combinaison de chaleur d'ensoleillement. Et maintenant, on y arrive plus facilement. Nous ici, on a des températures qui peuvent monter à 35-40 l'été pendant plusieurs jours. Du soleil, on en a aussi beaucoup. Et du coup, le raisin arrive à avoir ce qu'il faut pour arriver à terme.
Bon, Clément, pour cet agriculteur, c'est aussi un moyen de diversifier sa production.
Exactement, Céline. Dans son exploitation, Rodolphe Couturier cultive aussi la betterave, le soja, l'orge, les petits pois. Mais le vin peut devenir une compensation de ce qu'il perd dans ses cultures. Par exemple, en 2020, à cause du gel au printemps, il a dû ressemer 100% de ses betteraves sucrières.
Ce que vous perdez peut-être ailleurs, vous essayez de le gagner avec le vin.
Voilà. Le but, c'est d'arriver à pérenniser une entreprise qui doit me permettre de vivre, quoi. Et du coup, il faut arriver à pas mettre tous ses œufs dans le même panier pour se dire s'il y a quelque chose qui va mal, à côté, il y aura quelque chose qui s'en sortira un peu mieux, quoi.
Et donc, si le vin ne représente pas la majeure partie de son activité, Rodolphe Couturier l'admet, le sourire aux lèvres, ses vignes, c'est son nouveau coin de paradis.
Merci beaucoup Clément Terra. Donc, dans la Beauce aujourd'hui pour RTL.
Vous en avez rêvé en dehors de Paris. Le RER arrivera-t-il près de votre ville? On en parle dans une seconde avec Arnaud Touche.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité. Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi.
Le RER, ça n'est pas que sur Paris. Dans les 10 principales villes françaises, où il y a thrombose, où il y a trop de circulation, où les déplacements sont compliqués, on doit se doter d'une vraie stratégie de transport urbain. Et c'est un super objectif pour l'écologie, l'économie, la qualité de vie.
Emmanuel Macron, le président de la République, dans une vidéo mise en ligne hier. Emmanuel Macron.
Ce matin, j'étais porte de Saint-Cloud, il y avait une vraie thrombose, tout d'un coup. Non mais personne parle comme ça, on dit un embouteillage, personne dit j'ai vu une thrombose à la sortie de Paris.
Parfois donc, ça s'entend mais c'est...
Donc, en fait c'est un langage techno.
On entend plus ça effectivement non, d'habitude dans la bouche d'un médecin.
Vous connaissez quelqu'un qui dit j'étais pas à la porte de Saint-Cloud, il y avait une thrombose toute la matinée. Non, personne ne parle comme ça, on dit un embouteillage ça s'appelle. Mais c'est pas grave, il est président de la République.
Et surtout, ce n'est pas nous qui lui écrivons ces textes, vous
non,
l'aurez compris.
On lui écrirait différemment, je pense.
Emmanuel Macron donc a annoncé sa volonté de doter les 10 plus grandes villes régionales d'un réseau RER, réseau express régional, justement. Le chef de l'État met en avant la transition écologique pour justifier le projet. Bonjour Arnaud Touche.
Bonjour.
Vous êtes notre spécialiste transport ici à RTL. Bon, d'abord, c'est quoi ce projet de RER dans 10 nouvelles villes?
Alors, ça a l'air sorti du chapeau, mais en fait, pas du tout. Les grandes villes en discutent depuis plusieurs années. Mais en gros, il s'agit de faire comme en région parisienne, avec plusieurs lignes de RER, A, B, C, D, et de faire des liaisons ville-banlieue, banlieue-ville en express, vous l'avez dit, c'est-à-dire avec des cadences très importantes. Le but, il est très clair, c'est d'abandonner la voiture pour prendre le train, c'est plus écologique, voilà ce qu'a dit le président.
Mais surtout, je croyais que ça existait, moi, depuis toujours, les trains express régionaux, ce qu'on appelle les TER. Quelle est la différence entre un TER et un RER?
Alors, déjà, c'est pas le même matériel roulant, vous l'avez vu, entre un RER et un TER, c'est pas du tout la même chose. Alors déjà, évidemment, sur un RER, vous n'avez pas le logo de la région, par exemple, vous avez Île-de-France Mobilité, mais enfin, un TER, ça n'a rien à voir avec un RER. Avez-vous déjà pris le TER, par exemple?
Bien sûr.
Eh bien, le TER, ça n'a rien à voir, déjà, à l'intérieur. L'aménagement intérieur n'est pas
c'est
du tout
train.
Le même.
Ben, c'est un petit train, oui. C'est
oui,
un petit
c'est
train
un petit train
pour relier deux villes, mais...
Eh bien, elle est là, toute la différence. C'est pour relier deux villes. Alors que là, à un RER, il y a quand même beaucoup plus d'arrêts et surtout la fréquence, elle est beaucoup plus importante sur un RER. Typiquement, on va en parler peut-être tout à l'heure, mais les villes qui sont concernées, vous regardez Strasbourg.
Écoutez, entre Nantes et La Baule, il y a un petit train, un TER, et il s'arrête partout. Hein.
Oui,
mais. Il y a 5 ou 6 arrêts, c'est pour ça que j'étais très étonné de ça.
C'est vrai, mais il ne doit pas y avoir un départ toutes les 10 minutes, par exemple.
Ah,
et ça va possible. Changer, effectivement.
Alors, Pascal parlait de Nantes. Est-ce qu'on sait quelles sont les villes concernées, Arnaud?
Il n'y a pas de liste arrêtée à cet instant-là. En revanche, c'est effectivement la Première ministre qui va devoir arbitrer sur ces projets-là. Il y a quand même quelques grandes villes qui émergent pour ces projets-là. On parle de Lyon, Grenoble, Strasbourg, Bordeaux ou Lille. Et effectivement, l'Eurométropole de Strasbourg, c'est celle qui est la plus avancée. En réalité, ils vont lancer une sorte de RER européen, on va dire ça comme ça, le mois prochain. Donc ça, c'est dans les toutes prochaines semaines.
Entre le moment où le RER est lancé et le moment où le premier voyageur monte dans le train, il va se passer combien de temps?
Beaucoup de temps.
J'imagine qu'une association pour la défense des coléoptères va découvrir qu'on ne peut pas construire une ligne et que ça va retarder au moins de 2 ans.
Alors voilà, alors ça c'est toute la question à laquelle je ne peux hélas pas répondre. Soit on utilise le réseau actuel et à ce moment-là on met beaucoup plus de trains. Ça facilite les choses, on est d'accord, on change peut-être le matériel roulant. Par contre, et c'est là où j'ai été interpellé hier soir, c'est que du coup... Le président de la République dit c'est à la Première ministre de faire les nouveaux tracés. Mais qui dit nouveau tracé dit forcément nouveau rail, quelque part. Mmh. Et on parle quand même d'environnement dense à un moment ou un autre. Donc, s'il y a des nouvelles lignes, il va falloir avoir des nouveaux tracés. Effectivement, bah là, peut y avoir quelques réticences. Ça, c'est des projets quand même sur des choses à 10 ans. Parce que le président de la République parle, par exemple, du Grand Paris. Vous voyez, quand on a parlé du Grand Paris, on n'y est pas encore, nous, hein, en 2024 et encore moins en 2030. Donc, ça va prendre beaucoup de temps.
Qui va payer, Arnaud ? Parce que là, c'est le président de la République qui lance ce projet, qui l'évoque en tout cas. On a un accueil plutôt favorable, a priori, des principales villes, mais quand il va falloir payer.
Ça, c'est vrai que les maires, en général, sont plutôt d'accord pour ce projet-là. Par exemple, à Lyon, hier soir, le maire a tweeté « Make the train great again ». Hein, il a osé cela, effectivement, le maire écologiste. Carole Delga, la présidente socialiste d'Occitanie, a salué l'initiative. Mais au fond, il y a plusieurs personnes qui vont payer. Vous, évidemment. Donc, la plupart
ça,
des...
c'est la base. Hein.
Évidemment, l'État, les régions et les métropoles. C'est ce qui se passe à Strasbourg, notamment, où il y a, effectivement... la région qui va payer et la métropole également. Mais nous allons payer à un moment ou un autre, ça c'est certain. On peut parler du timing aussi. Effectivement, le président de la République prend la parole hier soir, alors qu'effectivement, on a du mal, déjà en Ile-de-France, avec le Pass Navigo notamment, à financer tout simplement les RER en région parisienne. On va se poser la question, évidemment, en province demain, de comment on va faire pour payer. C'est une bonne question.
On est un peu en retard d'ailleurs par rapport à d'autres pays. C'est vrai que depuis 40 ans, l'aménagement du territoire, on a privilégié le TGV aux petites lignes.
C'est vrai, ça c'est tout à fait vrai. Et pour le coup, bah, c'est un grand projet, c'est comme une impulsion, c'est un peu comme le Grand Paris si vous voulez. À un moment, il faut une impulsion pour lancer ces projets, mais ça va être très long, ça c'est certain, effectivement.
On retiendra bonne idée, mais mauvais lexique. Ça, c'était les notes de Pascal.
Non, une petite thrombose. Peut-être qu'il y a des gens qui sont en pleine thrombose actuellement, donc je les salue. Et mais ils peuvent patienter.
Nous les accompagnons.
Nous les accompagnons. Et ce soir, ils vont rentrer chez eux. Ils diront à leur femme, je suis un peu en retard parce que j'avais une thrombose là dans la ville. J'ai pas pu rentrer tout de suite.
Ils prendront le RER.
Exactement. 12h18. À tout de suite avec RTL Midi, votre vie.
On va parler calendrier. De l'Avent.
Ah oui, mais l'Avent, c'est pas le 1er décembre, hein, contrairement à ce qu'on pense. L'Avent, c'est toujours le premier.
Attention, vous allez vous embrouiller là, Pascal. Ça a commencé hier pour les catholiques. C'est 4 dimanches avant Noël.
C'est 4 dimanches avant Noël. Donc ça a commencé hier, l'Avent. Oui. Et l'année liturgique a commencé.
J'aime quand vous me paraphrasez.
Amen. À tout de suite.
Céline Landreau, Pascal Pro. RTL Midi jusqu'à 13h. RTL Midi, votre vie.
RTL Midi, votre vie, effectivement, car l'info, c'est aussi ce qui fait votre quotidien. Et aujourd'hui...
Moi, je suis content quand vient le temps. Ouais, ouais, ouais. Du calendrier, de l'Avent. Ouais, ouais, ouais. Même si je sais que j'aimerais...
Ça t'occupe tout de suite, ça, Céline, cette petite chanson que vous nous avez...
On lui donne sa chance, en tout cas.
Vous avez sorti l'Avent. Alors, je précise que l'Avent, c'est A-V-E-N-T.
Oui, parce que même si c'est avant... Noël, ça s'écrit pas pareil. L'Avent qui a commencé hier, on le disait, pour les catholiques. Mais pour ce qui est du calendrier de l'Avent, eh bien, ça commence jeudi, le 1er décembre. Et c'est un marché en plein essor depuis quelques années. Bonjour Armel Lévy.
Bonjour.
Bon Armel, quand on parle calendrier de l'Avent, évidemment la star, ça reste le chocolat.
Ah oui, vous le voyez en grande surface, hein, il y en a partout. L'an dernier, il s'est vendu 12 millions de calendriers de l'Avent en chocolat pour 70 millions d'euros, selon l'Institut d'études Nielsen. Ça représente un tiers des ventes des chocolats de Noël. En numéro 1, c'est Kinder qui en vend le plus, 6 ventes sur 10 en grande surface. D'ailleurs, l'an dernier, celui qui s'était le plus vendu, 2,5 millions de pièces écoulées, c'était le chalet Kinder à 9 euros. Mais la marque sort toujours des nouveautés. Donc cette année, on a le calendrier de l'Avent train ou le calendrier de l'Avent avec un livre d'histoire de Noël à 12 euros. En fait, aujourd'hui, 26%, donc un peu plus d'un quart des familles françaises avec des enfants, achètent au moins un calendrier de l'Avent en chocolat à Noël.
Mais il y a les autres, effectivement, et notamment les calendriers de l'Avent version jouet.
C'est vrai. En fait, ils ont une vertu, ces calendriers de l'Avent, c'est d'apprendre la patience. Et oui, les enfants ont déjà fait leur liste au Père Noël, et d'avoir une petite surprise chaque jour dans une case, ça leur permet d'appréhender la dimension temporelle jusqu'à Noël. Et tout l'enjeu, c'est de leur expliquer qu'il ne faut pas ouvrir toutes les cases tout de suite, ce qui n'est pas facile. Donc au rayon jouets, les calendriers de l'Avent marchent très bien. Il s'en est vendu 1 400 000 l'an dernier pour 31 millions d'euros. Là, c'est selon le cabinet NPD Group. Prix moyen, 22,50 euros. La boîte sert de prétexte parce que c'est tout un univers que l'enfant va pouvoir découvrir en ouvrant ses petites cases pour construire son personnage et son histoire. Les deux marques les plus vendues sont Lego et Playmobil. Pour Playmobil, c'est le calendrier de l'Avent pâtisserie de Noël à 20 euros qui marche très bien cette année. Et pour Lego, c'est le calendrier de l'Avent Star Wars qui marche très fort aussi. Chaque jour, l'enfant a une surprise à construire avec 5 mini-figurines. Ça coûte 35 euros. Mais dans les magasins de jouets, on n'oublie pas que le rayon loisirs créatifs compte aussi de nombreux calendriers de l'Avent pour réaliser ses décorations de Noël soi-même. Et eux, ils coûtent autour de 25 euros.
Et vous nous en avez fait envoyer Armel pour qu'on puisse les présenter, notamment pour les tout-petits avec des figurines en bois. Et comme vous l'expliquez, tout l'enjeu, c'est d'attendre chaque jour la nouvelle figurine à déballer pour patienter comme ça jusqu'au 25. Et puis signe que ça s'est diversifié sur le marché du calendrier de l'Avent, Armel. Il y a aussi maintenant des calendriers cosmétiques. Là, on est quand même sur un budget un peu plus élevé. Hein.
Ah oui, c'est vrai. 45 euros en moyenne dans les parfumeries. Mais après, si vous choisissez les calendriers de l'Avent des grandes marques, ça monte vite à 70, 100, 150 euros et même 700 euros l'an dernier pour le calendrier de l'Avent numéro 5 de Chanel. Alors, c'était impressionnant, mais j'avais vu les photos. Il y a tout dedans, le parfum, le vernis, le rouge à lèvres, grandeur nature. Ce n'étaient pas des petits échantillons.
En fait, le calendrier de l'Avent, c'est devenu un véritable outil de communication, une manière de faire de la pub également.
Oui, c'est ça. Hein. Toutes les marques s'y mettent depuis une quinzaine d'années. Les boîtes sont tentantes, très jolies. Pour les consommateurs que nous sommes, c'est une façon de découvrir et de tester des produits chaque jour pour voir si on aime. Par exemple, vous trouvez des calendriers de dégustation de thé et d'infusion, des calendriers de l'Avent pour goûter des confitures ou des calendriers pour goûter la bière, une chaque jour. Pour le vin, c'est pareil, ça existe aussi, mais il y a 12 cases, hein, parce que c'est effectivement à consommer avec modération. C'est sur le site des artisans français qui s'appellent Ici Présent pour l'accompagner. Sur le site, on trouve aussi des calendriers de mini saucissons. 42,80 euros, vous voyez, ça se diversifie. On n'oublie pas pour nos animaux aussi de compagnie. Ils ont des calendriers de l'Avent, comme Lily Kitchen. Vous pouvez leur offrir une petite friandise chaque jour.
Avec des croquettes biscuits de Noël, alors.
Au cheddar, au miel, au foie, aux pommes. Et pour les chats, là, ça coûte 13 euros.
Et comme il n'y a pas que l'alimentaire, on a aussi des calendriers de l'Avent photo. On pourrait faire ça, hein, Pascal.
Bien sûr.
Je vous offrirai
vous
ça.
Vous-même.
Voilà, exactement. Tous les jours, on ouvre une case, on aurait une photo de nous deux pour se rappeler tous nos beaux souvenirs de l'année écoulée.
Mais de l'année liturgique qui commence, effectivement, depuis hier. Mais vous avez parfaitement raison, c'est une excellente idée. Et ces photos que je vois là sont très réussies. Merci Armel, merci beaucoup. L'Avent, du latin Adventus, qui veut dire arriver. C'est donc la période qui couvre quelques semaines précédant Noël, 4, donc dans la tradition de l'Église de Rome. Il est 12h27, nous revenons avec les infos dans une seconde.
Votre avis compte.
Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, merci de rester avec nous. Si vous étiez déjà à l'écoute de ce RTL Midi, il est 12h30.
RTL Midi,
le 12h30,
Céline Landreau et Pascal Praud.
Et donc à 12h30, c'est votre grande édition de la mi-journée avec vous, Céline Landreau.
Et avec un jeu qui fait polémique à l'approche des fêtes, le jeu Antifa, contesté par les forces de l'ordre, retiré par la FNAC, on vous explique tout dès le début du journal. À suivre aussi la 9e vague de Covid qui déferle sur la France, c'est d'ailleurs là l'objet de la question du jour sur notre site rtl.fr. Une 9e vague vous inquiète-t-elle? La loi anti-squat arrive à l'Assemblée et ça s'annonce musclé. Les autorités chinoises, elles, assurent que leur politique anti-Covid sera une réussite. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est très stricte et que des émeutes secouent le pays. On sera à 12h40 avec notre correspondant à Pékin, lui-même confiné sans être malade ni cas contact. La billetterie pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, c'est comme le calendrier de l'Avent. Ça commence jeudi, le 1er décembre. Mais là aussi, il faudra être patient. Et puis votre rendez-vous culture, LVT midi juste avant 13h. Aujourd'hui, rendez-vous avec Michel Houellebecq qui sort du silence pour évoquer une BD, l'adaptation de la carte et le territoire.
On en parlera à partir de 13h dans les auditeurs ont la parole. 32-10 pour dialoguer jusqu'à 14h30. Et je vous rappelle la question foot du jour. Kylian Mbappé est-il un ou le dieu du stade?
La météo à la fin du journal met déjà un indice avec vous, Louis Baudin.
Et bien, beaucoup de nuages, beaucoup de pluie dans l'est, des éclaircies dans l'ouest, mais avec aussi des averses.
Merci Louis, à tout à l'heure.
Jusqu'à 13h.
RTL Midi.
Et pour commencer donc cette polémique dont la FNAC se serait bien passée à l'approche de Noël, l'enseigne pointée du doigt pour avoir retiré de son catalogue un jeu de société, le jeu Antifa, Vincent de Rollier.
Oui, et allez, soyons fous, je vous propose une petite partie. Céline, vous êtes la militante Camille Tête Brûlée, Pascal Nathan le geek et moi Thomas le bricoleur. Notre groupe antifasciste est au complet, on peut commencer la partie, on pioche la carte. Notre mission du jour, intervenir alors qu'un groupe raciste organise une manif anti-réfugiés. Avec Céline, on vote pour une pétition, mais Pascal, vous préférez un rassemblement sur le terrain. Soit, c'est vous le chef, on pioche des cartes. Pascal, vous rapportez des fumigènes. Céline, des vêtements noirs et moi un mégaphone. Mais patatras, une carte imprévue. Céline est interpellée, elle passe 24 heures en garde à vue. Voilà, notre morale est en baisse de 2 points. Je m'arrête là, vous avez compris le principe de ce jeu collaboratif, Antifa. Et David Lebars du syndicat des commissaires de la police nationale ne l'achètera pas pour Noël.
Les Antifa, c'est le poison pour la République dans les manifestations, qui se mettent à dégrader, à taguer, à brûler et à agresser les forces de l'ordre. Et ce jeu qui fait l'apologie de la violence, pour nous, poser une question. Je laisse le débat des extrémistes se faire entre eux. Nous, nous avons posé une question et nous sommes satisfaits de la réponse de la FNAC.
Et certains internautes indignés se demandent pourquoi la FNAC a cédé alors que le livre Le Grand Remplacement de Renaud Camus est lui, par exemple, encore disponible dans les rayons.
Vincent de Rosier pour RTL.
RTL Midi.
Un nouveau combat épique en perspective à l'Assemblée où débute aujourd'hui l'examen d'une proposition de loi anti-squat.
Le texte porté par la majorité présidentielle veut tripler les sanctions encourues par les squatteurs, c'est-à-dire les porter à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Et pour le faire adopter, la majorité va encore devoir se tourner vers sa droite, Thomas Détraire.
Oui, parce que comme d'habitude, il manque 38 voix à la majorité. 38 voix que Renaissance espère bien trouver, comme souvent chez les Républicains. Et cette fois-ci, ça devrait pas être trop difficile. Cela fait bien longtemps qu'on fait des propositions dans ce sens, a confirmé en commission la patronne par intérim des LR, Annie Genevard, la semaine dernière. Elle a même convaincu la majorité d'assimiler le squat à un vol. De son côté, le RN lui aussi approuve cette proposition. En revanche, pas de surprise, hein, la gauche devrait s'y opposer. Pour l'insoumise Danielle Simonet, cette loi, c'est une fabrique à SDF. Les groupes de la NUP qui dénoncent notamment un durcissement des sanctions en cas de loyer impayé. Un texte disproportionné, juge le PS. De son côté, le gouvernement soutiendra bien la proposition, mais l'entourage d'Olivier Klein, le maire, le ministre du Logement, actuel maire de Clichy-sous-Bois dans le 93, nous expliquait ce matin ne pas vouloir que ce texte se réduise à une chasse aux locataires les plus fragiles.
Thomas Desprez du service politique de RTL. Jean Castex lui a pris ses fonctions ce matin à la RATP. Le nouveau PDG qui a bénéficié d'un comité d'accueil bruyant au siège de l'entreprise de transport. Une première manifestation pour saluer donc l'arrivée de l'ancien chef du gouvernement. Vincent Gautron de la CGT-RATP.
La CGT-RATP a décidé de venir en soutien aux camarades en lutte et en même temps de venir voir Jean Castex, lui souhaiter la bienvenue dans l'entreprise et l'interpeller sur les priorités des agents de la RATP, mais aussi la nécessité de changer l'ensemble de la politique d'entreprise qui aujourd'hui a des répercussions bien évidemment sur les salariés, mais aussi et surtout c'est les usagers des transports.
Propos recueillis pour RTL par Arnaud Touche.
Le Covid et la 9e vague qui commence à déferler sur le pays.
Et comme un air de déjà-vu, un parfum de lassitude aussi pour les Français, moins promptes à se protéger, peu de masques par exemple dans les lieux publics. Pourtant, le virus circule. Bonjour Virginie Garin.
Bonjour.
Combien de cas par jour actuellement ?
Alors en moyenne, 45 000 nouveaux cas par jour. Ça progresse dans toutes les régions et c'est 2 fois plus qu'il y a un an, la même semaine. L'an dernier à Noël, on était arrivé avec une grosse vague avec 350 000 malades par jour. Est-ce qu'on va vers le même scénario ou juste une petite vague? Personne n'en sait rien. Ce qui inquiète un peu, c'est le nouveau variant Omicron BQ1 qui est bientôt majoritaire et qui est un peu plus contagieux.
Ça se traduit déjà en termes d'hospitalisation peut-être ou de décès?
Oui, alors hospitalisation en hausse dans toutes les régions là encore. Hausse des entrées à l'hôpital pour Covid, 4200 personnes en une semaine. Hausse aussi en soins critiques, pas encore des décès, mais on sait qu'il y a toujours 1 à 2 semaines de décalage. En moyenne, 60 personnes meurent chaque jour en France du Covid.
Il y a 1000 personnes, je crois, en soins critiques actuellement.
Exactement.
Ça reste quand même un chiffre qui n'est pas trop important.
Si l'on peut dire, malheureusement, pour les hôpitaux, mais il ne faudrait pas que ça augmente.
Sur le plan de la vaccination, justement, pour pas que ça augmente, on en est où, Virginie ?
Alors là, ce n'est pas suffisant. Il faudrait au moins que les plus fragiles d'entre nous, hein, les malades ou les plus de 60 ans, fassent un deuxième rappel. Il y a un nouveau vaccin qui est adapté à Omicron. Et bien, sur les 18 millions de Français concernés, un peu plus d'1 million seulement, pour l'instant, l'ont fait. Donc, à ce rythme, il faudrait 1 an et demi pour que tout le monde soit vacciné.
C'est long. Merci, Virginie Garin, pour RTL.
Tout à fait autre chose. Comment faire la guerre en plein hiver? RTL a suivi un entraînement des forces de l'OTAN en Estonie.
Avec des soldats français, estoniens, donc danois ou même anglais qui se tiennent prêts en permanence, quelle que soit la saison. Et alors que la neige et les températures négatives s'abattent sur l'Ukraine, c'est l'occasion de comprendre à quel défi logistique sont confrontées les armées russes et ukrainiennes. Défi alimentaire notamment, car Julien Fautra, au-delà des armes, la nourriture, c'est aussi crucial pour faire la guerre.
Oui, beaucoup de témoignages de soldats russes aujourd'hui, mal équipés, mal nourris. L'enjeu, par des températures extrêmes, c'est de durer. Le chef Thibault m'ouvre la ration d'un soldat français.
Alors, dans les rations, on retrouve pour le petit déjeuner un muesli, une soupe, avec un plat chaud et un plat froid. Donc là, vous avez soit pour le midi, salade de pâtes au saumon, ou pour le soir, crevettes et poulet à l'asiatique.
Et j'ai eu le droit à parmentier de canard. Il y a un petit système pour réchauffer la conserve, ça cuit et ça permet de maintenir les soldats en condition. 1939, campagne de Finlande, des Russes meurent de faim, mal ravitaillés, après plusieurs jours de marche.
En fait, ça nous permet d'avoir tout l'apport énergétique pour un combattant sur une journée.
Vous emmenez jusque sur des terrains de guerre du pâté français.
Ça, c'est plutôt pas mal, effectivement. Les rations sont plutôt demandées. Chaque fois qu'on part sur les terrains, généralement, les Anglais ou les Américains viennent nous demander d'échanger nos rations contre les leurs.
Et vous le faites ?
Et on le fait, mais c'est généralement une ration française pour deux ou trois anglaises ou américaines.
La température est en train de chuter en Ukraine brutalement. Ces ravitaillements réussis ou au contraire impossibles pourraient faire basculer la guerre.
Julien Fautra, tout juste rentré d'Estonie, donc pour RTL.
Comment assister aux épreuves des Jeux Olympiques de Paris en 2024?
Alors certes, Pascal, je vous connais, vous allez me dire que c'est dans un an et demi, qu'on a le temps.
Je vais vous dire surtout que je ne serai pas là et que je serai le plus loin possible.
Ah bon?
Bah oui, en dehors de Paris, parce que Paris, pendant les JO, ça va être compliqué quand même.
Ça va être formidable. Côté billetterie, pour ceux qui ont...
Oui,
c'est pas grave, on n'est pas toujours d'accord, vous savez, avec Pascal, hein, on a l'habitude. Côté billetterie, en tout cas, tout commence dès jeudi, le 1er décembre, donc, avec une première phase d'inscription en ligne, Jean-Michel Rascol.
C'est vrai, pour avoir accès aux 13 millions de billets qui vont être mis en vente, il faut s'inscrire à partir de jeudi et jusqu'au 31 janvier sur le site ticketsparis2024.org. Il y aura ensuite le 13 février un tirage au sort qui vous conduira le 15 février à une plateforme en ligne de vente. Et là, vous pourrez acheter des packages de 3 à 30 billets digitaux par personne et vous aurez 48 heures pour faire votre marché. Mais si vous voulez augmenter vos chances d'être retenu, alors inscrivez-vous au préalable au Club Paris 2024 sur paris2024.org car les membres du club seront prioritaires lors du tirage au sort. Cette première phase de vente totalement gratuite se terminera le 15 mars.
En fait, vous auriez dû demander aux gens d'avoir un papier, un stylo peut-être pour noter tout ce que vous avez dit.
Régulièrement si vous voulez.
Vous avez raison.
Donc ça c'est gratuit pour s'inscrire, mais côté tarif, après vrai. Quand on va payer... Il faut s'attendre à quoi, Jean-Michel ?
Alors, la moitié des 13 millions de billets mis en vente sera à moins de 50 euros. Billet le moins cher, 24 euros. Billet le plus cher, 980.
Ah oui.
Le package le plus accessible, donc, 3 fois 24, c'est 72 euros. Et pour ce prix, vous pouvez avoir accès à tous les sports, par exemple athlétisme, judo, équitation, ou natation, BMX et gym. En prenant l'ensemble des 32 sports olympiques, cela donne 48 millions de possibilités. Notez que la vente de billets à l'unité interviendra le 15 mars et englobera alors les fameuses cérémonies. Le comité d'organisation attend 1,2 milliard de recettes de cette campagne de vente, ce qui représente un tiers du budget global des Jeux Olympiques de Paris.
Merci beaucoup Jean-Michel Rascol. 980 euros, bon, il va falloir épargner un petit peu.
Ah bon, finalement, je vais rester à Paris, après ce que vous avez dit. Alors, vous m'avez donné envie de rester.
Ah voilà, c'est le prix peut-être.
Exact. Ah oui, 24 euros.
Avant de s'émerveiller devant les exploits des athlètes lors des Jeux, vous pouvez déjà vibrer pour le mondial de foot, les matchs du jour et cette première rencontre entre le Cameroun et la Serbie. 3 buts partout après 75 minutes de jeu. Le reste du programme à 14h, Corée du Sud, Ghana, à 17h, Brésil, Suisse. Et puis ce soir à 20h, le Portugal affrontera l'Uruguay. La météo, on vous retrouve Louis Baudin pour un après-midi qu'il vaut mieux passer à l'ouest.
À l'ouest, exactement. Hein. C'est vrai que dans l'est, on va avoir une perturbation qui va traîner tout au long de l'après-midi, apportant des nuages, de la pluie, quasiment de la Méditerranée jusqu'à l'Alsace. Ça sera plus en plaine, mais neige en montagne à partir de 1300 mètres, notamment sur les Alpes. Les orages seront possibles, notamment près de la Méditerranée. Le vent va se lever, la tramontane, jusqu'à 80
80 km/h. Puis dans la moitié ouest, là vous avez raison, on retrouvera quelques éclaircies. Mais attention, les nuages ne seront pas très loin. Il y aura même parfois des averses, voire même des orages. On voit, ça commence à du côté de la Vendée. Le tout poussé par des vents également assez forts près de l'Atlantique, jusqu'à 70 km/h. Et puis les températures, allez, ça reste encore à peu près de saison, voire un peu au-dessus, avec 8 à 10 degrés dans les régions du nord-est, 10 à 13 degrés ailleurs, et parfois jusqu'à 15 degrés entre la Côte d'Azur et la Corse.
Et paraît-il qu'il y a de la neige partout en ce moment?
Oui, dans l'hémisphère nord pour un 28 novembre, hein, c'est ça. On n'a jamais vu autant de neige depuis qu'on fait des relevés depuis l'après-guerre.
C'est pas possible.
Ben si,
jamais autant de neige dans l'hémisphère nord, mais on n'en parle pas beaucoup finalement.
Ben voilà, on le fait.
Exact. Mais il ne faut pas confondre la météo et le climat.
Exactement.
Bien sûr. Il est 12h41, la pause.
RTL Midi. Céline Landreau et Pascal Pro. RTL Midi.
Pascal Pro et Céline Landreau.
Des manifestations exceptionnelles en Chine pour contester les restrictions sanitaires. Deux personnes arrêtées à Shanghai pour ce qui semble être la contestation du régime la plus importante depuis les émeutes pro-démocratie de 1989. Pour en parler avec nous, Hugo Aubry, notre correspondant en Chine, justement. Bonjour.
Bonjour.
Alors, les autorités chinoises assurent aujourd'hui que leur combat contre le Covid-19 sera une réussite. Ce combat, il passe, on le sait, par des mesures très strictes, mesures que vous subissez vous-même, Hugo.
Oui, c'est vrai, il faut vraiment subir ces mesures pour comprendre à quel point la population chinoise est exaspérée. Pour ce qui me concerne, il y a deux jours, brutalement, pour ne rien vous cacher, j'étais en train de descendre mes poubelles à l'extérieur et j'ai trouvé la porte fermée. Il y avait plusieurs agents devant cette porte en combinaison intégrale anti-Covid. Ça veut dire, on les surnomme ici les géants blancs, en fait, les dabaï. Ils sont en combinaison blanche avec une visière, des gants, on ne sait pas qui c'est. Et ils m'ont expliqué que non, c'était fermé, la résidence était bouclée. J'ai demandé pourquoi. On m'a dit qu'il y avait un cas suspect dans l'immeuble et qu'il fallait que je remonte immédiatement chez moi, ce que j'ai fait. Et à partir de là, effectivement, j'ai reçu des messages du comité de quartier pour me dire que la résidence était bouclée. Donc ça dure déjà depuis trois jours. On n'a absolument aucune idée de combien de temps ça va durer. On ne sait pas non plus s'il y a véritablement des malades dans l'immeuble. Mais en tout cas, je suis enfermé chez moi. Et ce n'est pas la première fois cette année, ça fait deux fois que ça m'arrive. La dernière fois, ils avaient même posé une alarme sur la porte pour vérifier que je ne sortais pas et que j'allais pas violer le confinement.
Vous êtes donc bloqué chez vous, vous n'avez pas le droit de sortir. Pour les animaux de compagnie, ça n'existe pas manifestement en Chine. Et il y a des gens qui vous surveillent.
Oui, c'est ça. Il y a des gens qui nous surveillent. Bon, d'abord, il faut savoir qu'on est absolument surveillé en permanence. Moi, je suis dans une résidence qui compte une dizaine d'immeubles. Et il y a ce qu'on appelle ici les comités de quartier. Les comités de quartier, c'est un peu les yeux et les oreilles du parti communiste. C'est une émanation de l'époque maoïste. C'est eux qui s'occupent de contrôler tout le monde. Et c'est eux qui font la police dans le quartier. Donc, il y a plusieurs membres de ces comités de quartier qui sont installés devant chaque immeuble et qui surveillent qu'on ne sorte pas. Tous les jours, on doit envoyer des autotests pour le dépistage. Ce matin, un agent en combinaison intégrale, là encore, a tambouriné à la porte pour un premier test le matin. On a eu un autre test le soir. Donc on est surveillé tout le temps. Il y a de toute façon une seule porte et on ne peut pas sortir puisque les vigiles sont là. Et après, il y a ici le pass sanitaire version chinoise, c'est-à-dire un QR code de traçage qui vous empêche en fait d'aller où que ce soit puisque pour entrer dans un lieu public, il faut le scanner. Et lorsqu'on est en confinement, eh bien, ce QR code passe à l'autre. Orange, ça veut dire que immédiatement, si on le scanne, il va sonner. Et là, les gens vont savoir que vous êtes sorti en douce et que vous avez échappé à votre confinement.
Deux questions, Hugo. D'abord, comment on mange dans ces cas-là quand on ne peut plus sortir? C'est très prosaïque, mais comment ça se passe? Et ensuite, est-ce que vous êtes nombreux dans ce cas de figure en Chine?
Oui, on est très nombreux. Selon certaines estimations, il y a à peu près un tiers de la population chinoise qui est confinée. Au printemps dernier, c'était 40%. Et c'est comme ça depuis bientôt 3 ans. Donc oui, ça représente des populations très, très importantes, même si on n'a pas les chiffres exacts puisque le gouvernement refuse de communiquer sur l'ensemble de ces personnes en confinement. Pour ce qui est de la nourriture, on est déjà Je sentais bien ces derniers jours que quelque chose allait mal, puisqu'ici on connaît un peu une flambée épidémique qu'on n'avait jamais vue hein, depuis 3 ans. Donc je me doutais qu'à un moment ou à un autre, dans un immeuble de plus de 200 appartements, il y a bien d'avoir quelqu'un qui était cas contact et qu'on allait se retrouver enfermé. Et donc on avait fait quelques provisions. Mais aujourd'hui, enfin c'était hier, on a reçu des vivres de ce comité de quartier. C'est un gros sac de plus d'un kilo rempli de choux, d'oignons et de carottes, et donc on est censé vivre avec ça pendant une semaine. Heureusement que j'avais prévu des provisions. Oui.
Parmi les déclics qui nourrissent la contestation actuelle, on parle du mondial de foot, Hugo, ça vous semble crédible ?
Oui, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de parler à plusieurs personnes ici qui finalement étaient très surprises. Hein. Elles sont tombées des nues en voyant ces stades pleins au Qatar et tous ces gens sans masque. Ils se doutaient hein, que d'autres pays avaient déconfiné, mais il faut savoir que la télévision d'État, la propagande ici, continue tous les jours de donner les chiffres du nombre de victimes du Covid à l'étranger, notamment aux États-Unis. Donc les Chinois, dans leur ensemble, ont quand même le sentiment que c'est une maladie extrêmement grave et que c'est terrible dans les autres pays. Mais là, en regardant la télévision, en regardant le mondial, ils se sont rendus compte que pas du tout. Les gens pouvaient aller au stade, et donc les gens pouvaient s'amuser, pouvaient sortir sans masque, et qu'il y avait une vie possible après le Covid, ce qui n'est absolument pas leur cas. Et ça a provoqué une sorte d'électrochoc ici.
Ben merci Hugo, et surtout bon courage à vous. Je ne sais pas si vous êtes en famille, si vous avez des enfants ou pas, mais j'imagine que le moment doit être particulièrement compliqué pour vous en ce moment.
Oui, c'est exact, surtout pour les enfants. Effectivement, les écoles sont fermées depuis plusieurs semaines déjà, et régulièrement, on doit repasser en télétravail, et donc l'école à la maison pour les enfants. Les étudiants aussi dans les universités sont enfermés depuis 2 mois, donc c'est extrêmement difficile. Ouais.
Bon courage à vous, et formidable témoignage qui relativise aussi ce qu'on entend parfois en France. Lorsqu'on a parlé de dictature en France et qu'on entend le témoignage de Hugo, c'est bien de relativiser les confinements, même si on peut les contester, qui ont eu lieu en France, et les mesures qui ont existé dans notre pays. Il est 12h50, Michel Houellebecq arrive, en tout cas presque, puisque c'est Bernard Lehu qui va s'asseoir autour de la table. Bonjour Bernard, c'est un événement, parce qu'il ne parle jamais Houellebecq, il ne parle jamais, sauf à Bernard Lehu.
Et à RTL.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau. RTL. Laissez-vous tenter, midi.
La culture se met à table tous les jours dans RTL Midi. Aujourd'hui, une parole devenue rare, celle de Michel Houellebecq. Bernard Lehu l'a rencontré, l'auteur des Particules élémentaires, à l'occasion de la parution chez Flammarion de l'adaptation en bande dessinée du roman qui lui a valu le prix Goncourt en 2010, La carte et le territoire. Mais j'avais cru comprendre que Houellebecq ne souhaitait plus s'exprimer sur ses livres à la radio et à la télévision.
C'est vrai, Pascal. Après la publication de Soumission, c'était en 2015, il a fait ce choix de l'abstinence médiatique à chaque lancement de ses romans suivants, dont le dernier, cette année, Anéantir, où impossible, et en particulier pour RTL, de l'avoir au micro.
Mais s'il parle cette fois, Michel Houellebecq, c'est peut-être parce qu'il n'est pas le seul concerné hein, par la sortie en version BD de son ouvrage « La carte et le territoire ».
Oui, cette bande dessinée, eh bien, c'est le fruit d'une belle amitié nouée avec l'illustrateur de l'album, Louis Paillard. C'est un néophyte hein, en la matière, c'est sa toute première BD publiée. De métier, il est architecte, et au départ, c'est ce qui a réuni les deux hommes, Michel Houellebecq.
Louis Paillard est un ami, oui, ça fait bien 10 ans qu'on se connaît maintenant. Et je le connaissais comme architecte. Hein, c'est vrai que j'ai employé ses compétences d'architecte pour refaire mon premier appartement quand je suis arrivé à Paris. On a fait beaucoup de travaux. Il a eu des idées, on parlait de littérature, tout ça, aussi. Mais je ne savais pas qu'il faisait de la bande dessinée, donc ça m'a beaucoup surpris au départ. Et à vrai dire, ça m'a tout de suite plu.
L'un des romans de Michel Houellebecq, Plateforme, avait déjà fait l'objet d'une adaptation en bande dessinée. Oui. C'est un genre qu'il affectionne.
Houellebecq en a été lecteur avant de s'en éloigner, puis de redécouvrir la BD grâce au talent de son ami Louis Paillard.
Bon, la bande dessinée, je suis assez typique de ma génération. C'est-à-dire que je suis un vieux, j'étais jeune dans les années 70. À cette époque-là, la BD était en pleine forme. Quoi. Il y avait Pilote, etc. Donc je lisais pas mal de BD, après j'ai un peu laissé tomber quand même, Et là, j'ai découvert que ce qu'il fait, ça ressemblait à pas du tout une BD que je, comme je connaissais. C'est plus riche, c'est plus varié que la BD que je connaissais, quoi, qui était bien. Hein, comme moi, c'est un genre que j'aimais, mais un genre très structuré, très précis dans ses contraintes, quoi.
Et alors, est-ce qu'il a été associé, Michel Houellebecq, à l'adaptation de La carte et le territoire?
Alors, précisons tout d'abord que tous les textes que l'on retrouve dans l'album sont des passages, hein, fidèles mot à mot du roman. Quant aux illustrations, l'écrivain a été régulièrement consulté.
Oh, oui, je crois qu'il m'envoyait à peu près un mail toutes les 2-3 pages, ouais. Et des fois, je donnais mon avis, oui.
Et avec des corrections, parfois des modifications, suite à ce que vous pouviez lui dire.
Il m'arrivait d'avoir des idées, ouais.
Est-ce que vous-même, vous dessinez d'ailleurs, non, Michel Houellebecq?
Non, je suis incapable de dessiner. J'ai aucun don pour ça, aucun. Non.
En tout cas, l'aventure, l'expérience vous a beaucoup plu, visiblement. Est-ce que vous pourriez la prolonger pour d'autres de vos livres?
Oui. Oui, je pourrais, oui.
Et au final, Michel Houellebecq se dit très satisfait du résultat de sa collaboration artistique avec son ami Louis Paillard.
C'est très surprenant quand tu lis une bande dessinée, quand on regarde une bande dessinée, de le voir passer du noir et blanc à la couleur, quoi. C'est pas une chose qui se fait. De le voir passer d'un dessin extrêmement fouillé par moment, c'est un niveau de détail très très poussé, enfin on se croirait dans du Blake et Mortimer presque, enfin, à des choses beaucoup plus abstraites. Et donc il est complètement libre, quoi. Il y a des choses, c'est évident que ça ressemble à rien qui a été fait avant, quoi. Et là, on est en présence de ça, ce qui n'arrive pas souvent dans une vie. Hein. J'ai rarement vu autant de liberté chez un créateur, quoi.
Et ça vous plaît?
Oui, c'est quand même ce que j'essayais d'être aussi au départ. Enfin, je veux dire, oui, je me reconnais vraiment, quoi.
Et ça s'entend vraiment qu'il est content, Michel Houellebecq, bien sûr, Bernard. Il faut rappeler que La carte et le territoire, le roman, est l'un des plus grands succès de Houellebecq.
Vendu à plus de 500 000 exemplaires, on le rappelle, c'était son prix Goncourt, uniquement en grand format. Un livre dans lequel, entre autres, on s'en souvient, il se mettait en scène.
C'est-à-dire qu'il n'a jamais été mis en poche, c'est ce que vous voulez dire?
Si. Ah, ensuite, oui. Là, je ne donne que les 500 000 en grand format. En poche, avec les poches, ça doit approcher sans doute du million. Alors, c'est un livre dans lequel, on s'en souvient, il se mettait en scène avec une autodérision féroce. Et il racontait même son assassinat, des passages qu'on retrouve dans la bande dessinée. C'est sa deuxième meilleure vente, hein, derrière Soumission, La carte et le territoire. Soumission s'était vendu, lui, à 650 000 exemplaires.
Et sa stratégie du silence médiatique, elle a été payante, Bernard, pour les romans qui ont suivi, notamment Anéantir, là, le dernier publié en début d'année?
Pas sûr. Il sera loin de ses scores habituels. Je regardais les derniers chiffres ce matin. On en est un peu plus de 200 000 exemplaires vendus. J'avais pourtant trouvé, moi, le livre très bon. Alors, est-ce que ça incitera Michel Houellebecq à revoir sa stratégie de communication et à reparler de ses livres à l'avenir? That is the question.
Oui, mais est-ce qu'il écrit en ce moment?
Il est toujours.
Mais est-ce qu'il y a un projet éditorial?
Non. Mais vous savez, son rythme de publication, c'est 3, voire 4 ans. Donc là, c'est un peu tôt, puisque le dernier est sorti en début de cette année.
C'était au début de l'année, Anéantir?
Oui, il est sorti en janvier 2022.
Ça a été redistribué, en tout cas, tous les titres de Houellebecq, vous les aviez présentés d'ailleurs, ont été reformatés avec une couverture cartonnée pour les amateurs de Houellebecq. Oui.
Une édition de luxe, il a ce privilège auprès de son éditeur.
Édition de luxe chez Gallimard et pas simplement dans la collection blanche.
Chez Flammarion.
Oui. Pardonne-moi.
Oh là là. Bon, c'est notre groupe maintenant, hein. Flammarion, Gallimard, c'est Madrigal.
Bon, merci en tout cas beaucoup à Bernard Lehu et vous pourrez réagir également sur Houellebecq si vous le souhaitez. Dans les auditeurs ont la parole. On va parler football, notamment avec notre ami Christian Olivier dans une seconde, avec cette question essentielle. Est-ce qu'Mbappé et le dieu du stade, chère Céline, je vous pose la question.
Ça me rappelle un calendrier, moi, mais après, chacun ses références.
Oui, non, mais il sera habillé, là. À tout de suite. RTL Midi.